Bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour cette 8e séance du séminaire Apprendre la Palestine, intitulé Les luttes des prisonniers politiques en Palestine. Donc juste brièvement, je vais rappeler un petit peu les motivations du séminaire. Donc notre séminaire a été motivé essentiellement pour la mise en place et l'ouverture d'un espace dans lequel on puisse nous-mêmes construire, constituer, diffuser, partager des connaissances, des savoirs et des savoir-faire, afin de nous permettre d'être efficaces dans la manière dont on interagit avec le monde. Et pourquoi est-ce qu'on veut être efficace dans la manière dont on interagit avec le monde? C'est pour plus avoir à le subir, mais pour pouvoir le pousser et le transformer dans l'optique de le faire devenir ce qu'on voudrait qu'il soit. Donc c'est dans cette perspective-là, on a choisi, nous, pour le séminaire, comme porte d'entrée sur toutes ces questions-là, la Palestine, en abordant tout un tas de sujets. Soit des sujets qui sont habituellement peu abordés, ou alors lorsqu'ils sont abordés, on les aborde avec un éclairage peu commun. Et aujourd'hui, ça nous amène à nous poser des questions autour des prisonniers politiques en Palestine. Donc très très rapidement, pourquoi est-ce que la question des prisonniers politiques en Palestine, c'est une question qui nous paraît être importante? Premièrement, c'est parce que c'est un des gros piliers de la politique coloniale israélienne. Et ce qui est intéressant autour de ça, c'est que c'est une politique qui a double tranchant. C'est-à-dire que pour Israël, c'est un moyen de contrôler la population et de briser toute volonté de résistance et de lutte de libération nationale. Mais en même temps, ça constitue les individus en groupe, puisque ça les met tous dans un bain commun, dans une réalité commune, et qui les forme en tant que groupe. Donc en soi, cette politique, elle contient les germes des forces qui vont permettre, potentiellement, peut-être pas, de s'opposer et pourquoi pas de renverser les régimes en place. Donc pour ça, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Flora Youssef, qui est doctorante à Paris 8 et qui est basée à Ramallah, et qui va nous faire une présentation intitulée la contestation de l'emprisonnement politique en Palestine, des mobilisations collectives aux luttes féminines. Donc la présentation, on se donne 45 minutes, on te donne 45 minutes pour nous faire ta présentation. Et après ça, on aura une session de questions, pourquoi pas de débat, on verra comment les choses évoluent. Donc je te laisse la parole.
Eh bien merci, bonsoir à tous. Et d'abord, je remercie donc les organisateurs du séminaire de m'avoir permis de prendre la parole ce soir. Donc la présentation que je fais ce soir, elle est issue de mes recherches que je mène dans le cadre de ma thèse. Donc moi, je vais plus m'intéresser à discuter un peu des enjeux, des luttes qui sont menées par les femmes en Palestine contre les prisons israéliennes. Ça va être vraiment le cœur de ma présentation. Mais pour commencer, je vais prendre un petit moment pour donner quelques données clés en fait sur ce que c'est que le système carcéral israélien qui concerne les Palestiniens en Palestine. D'abord, alors quelques chiffres. Donc on compte depuis 1948 un million de Palestiniens qui sont passés par les prisons de l'occupation, ce qui correspondrait à un homme sur trois. Et on considère que dans chaque famille palestinienne, il y a un des membres qui est passé par les prisons de l'occupation, sachant que ce chiffre-là ne contient pas tous ceux qui ont simplement été arrêtés et menés dans les centres d'interrogation et potentiellement torturés. Donc c'est un chiffre qui devrait être encore plus grand que celui-là. Actuellement, donc, comme c'est décrit, on compte 5500 prisonniers, dont 230 mineurs et 54 femmes. Qui sont répartis dans une vingtaine de prisons, avec aussi également des cours militaires, des centres de détention et des centres d'interrogation. Les centres de détention, c'est les centres où il y a les politiques de détention administrative, qui sont donc des prisonniers qui ne bénéficient encore pas, en tout cas, du statut de prisonnier politique dont je vais préciser un peu plus tard. Les femmes, elles, sont réparties dans deux prisons qui sont Daman et Asharon, dans les sections féminines.
Tu peux nous les montrer sur la carte.
Daman et Asharon. Alors, Daman, je peux bouger. Daman, c'est ici, Asharon, là. Donc, c'est les deux prisons pour les femmes.
Et donc, elles sont en territoire israélien.
Alors, ouais, ça a été. Ça, c'est un truc dont je vais parler plus après, mais ce système-là, il date de. les années 80, où les prisons, elles ont été déplacées hors des... En tout cas, elles ont été déplacées seulement sur le territoire israélien, qui sont plus, elles sont plus ce qu'on appelle les territoires palestiniens, dans les territoires palestiniens. Ce qui n'était pas le cas avant les années 80. Et depuis 1967, on a un chiffre de 10 000 femmes qui seraient passées par les prisons. Et c'est un enjeu pour les prisonnières palestiniennes d'arriver à écrire et à compter celles qui étaient avant 1967, parce que bien sûr qu'il y en a eu, mais on n'a pas de chiffres. Le système carcéral en Palestine, donc ça c'est aussi des choses, donc je m'appuie un peu sur les recherches qui ont déjà été faites, notamment en langue française, on vous a conseillé la lecture des travaux de Stéphanie Latabdallah et sur le chercheur, l'autre qui me semble pionnier, c'est le chercheur palestinien Ismaël Nachif. Et sur le système carcéral en Palestine, ce n'est pas un système qui fonctionne sur tout un ensemble de codes juridiques et de lois, mais c'est un système donc, d'enfermement qui sert, qui sert le projet israélien d'occupation de la Palestine, donc l'occupation du territoire et en même temps du contrôle de la vie des Palestiniens. Donc c'est un système dont on dit que c'est la possibilité juridique d'enfermer chaque Palestinien et qui fonctionne sur les familles, c'est-à-dire que quand on arrête quelqu'un, généralement on arrête tous les proches qui est à côté pour essayer d'avoir les informations sur cette personne-là, et ça fonctionne sur les aveux du prisonnier. C'est-à-dire que c'est pas un système de loi qui du coup ils n'auraient pas respecté cette loi, donc du coup il y a tant et ça correspond à tant de peines. C'est un système qui correspond sur les aveux, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le prisonnier est arrêté, il est envoyé en centre d'interrogation, potentiellement torturé, et on essaie d'obtenir de lui. Il y a une négociation entre lui, l'avocat et les juges de le faire avouer pour ensuite lui donner une peine en fonction de ce qu'il aura avoué. C'est pas un système qui fonctionne sur des preuves. Les preuves d'ailleurs sont généralement peu diffusées parce que c'est toujours ça tombe sous le coup de la question des sécurités, donc ils ne diffusent pas les preuves au moment des procès. Et on a un taux de condamnation de 99%. Donc c'est pas un système juridique. Ça concerne, dans les prisons en Palestine, il y a les militants politiques, enfin il y a des militants, mais qui peuvent être enfermés pour des statuts Facebook jusqu'à la résistance armée, donc tout un tas de panels qu'on pourrait considérer comme de l'action politique, mais ça concerne aussi tous les Palestiniens qui transgressent les mesures de contrôle civil des territoires palestiniens. C'est-à-dire que sur les zones grises, il y a l'occupation militaire, mais il y a aussi maintenant ce qu'ils appellent le COGAT, la coordination des activités gouvernementales dans les territoires. Je crois que c'est comme ça les trucs. Bref, c'est l'administration civile des territoires sous le contrôle israélien qui est directement relié au ministère de la Défense israélien et qui ont tout un tas de mesures civiles, c'est-à-dire l'obtention des visas, l'obtention pour se déplacer dans certaines zones, le code de la route. Si on ne respecte pas le code de la route de manière un peu importante, on va dans les mêmes prisons comme pour les prisonniers politiques. Donc c'est vraiment un système qui fonctionne en servant les objectifs du projet israélien. On a par exemple les Palestiniens de Jérusalem, quand ils sont arrêtés, ils sont proportionnellement beaucoup plus en des peines beaucoup plus lourdes que les autres Palestiniens, parce qu'on sait que Jérusalem est un point stratégique pour le projet israélien. Stéphanie Tabdallah, elle a déjà écrit beaucoup de choses sur cette question-là. Et sur le chercheur palestinien Ismaël Nachif, ce qui est intéressant dans ses recherches à lui, c'est que, enfin, pour lui, il considère le système, ça résonne avec ce que tu disais, Grégoire, c'est que le système carcéral, il le considère comme étant une métaphore du rapport colonial entre Israéliens et Palestiniens. C'est-à-dire que ce qui se passe dans les prisons, finalement, c'est ce qui se passe, puissance 10, mais c'est ce qui se passe ailleurs, dans toute la Palestine. C'est-à-dire que ces techniques d'enfermement, d'arrestation, d'interrogation et de contrainte de l'individu et de sa capacité à agir, et finalement, ce sont les mêmes politiques qui se retrouvent de partout, c'est simplement puissance 10 de ce qui se passe dans les prisons. Du coup, moi, dans ma recherche, en fait, c'était avec ces deux chercheurs-là, mais pas que, mais en tout cas ces deux chercheurs-là, c'était l'idée de se dire que d'abord, un, les techniques d'enfermement, d'immobilisation, d'arrestation, c'est des choses qui vont au-delà des prisonniers, qui ne concernent pas simplement les prisonniers, mais qui concernent toute une population. Donc c'était d'aller voir un petit peu les conséquences et puis aussi ne pas simplement s'intéresser que aux prisonniers. Et puis, la deuxième des choses, c'était de voir sur la question des femmes en particulier, c'était comment elles utilisaient, comment du coup ce système-là qui visait une population, qui visait des formes de solidarité à partir de la catégorie ethnique palestinienne, et notamment de la famille, comment elles utilisaient les contestations qui vont être construites à partir de ça pour maintenir, moi, ce que j'appelle des luttes féministes, c'est-à-dire pour faire bouger des lignes du point de vue d'une libération spécifiquement féminine. Du coup, c'était l'idée de donc s'intéresser aux prisonnières, mais d'aller voir finalement que les prisons en Palestine, elles concernent tous les Palestiniens, elles concernent les familles, elles concernent les femmes, elles concernent les mères de prisonniers, les enfants de prisonniers. Et puis c'est aussi c'est des politiques qui sont beaucoup plus diffuses que simplement les prisons et les murs de la prison et les prisonniers. Donc du coup, ce soir, je vais essayer de faire une présentation en trois parties. Où je vais dans la première partie, en fait, ce qui me semble avoir été des enjeux, en fait, comment s'est construit ce que c'est que l'emprisonnement politique en Palestine, qui du coup s'est modifié, s'est transformé en fonction des luttes qu'il y a eu au sein des prisons qui ont été menées par les prisonniers et par leurs familles. Donc ça jusqu'aux années 80-85. Donc ça qui me semble les trois enjeux principaux. Une deuxième partie où je vais plus m'intéresser à maintenant, donc aller voir toutes les luttes qui sont faites tout ce qui est fait pour résister à ces emprisonnements, et pas seulement dans les prisons, donc vraiment m'intéresser à plus ce qui se fait autour des prisons. Et la troisième partie, donc voir un peu les femmes par rapport quand elles s'investissent dans ces luttes, en fait, qu'est-ce qu'elles font bouger pour le cas des femmes en Palestine en participant. Donc sur quels sont les enjeux qui ont construit ce que c'est que le prisonnier politique. Il faut savoir qu'avant les années 80, les prisonniers palestiniens sont dans les mêmes prisons que les prisonniers israéliens de droit commun. Donc ça a été une lutte des prisonnières et des prisonniers aussi de mener des grèves et des grèves de la faim pour être séparés des prisonniers israéliens de droit commun. Ça a été aussi des luttes sur les conditions internes, c'est-à-dire de refuser de travailler pour l'occupation, c'est-à-dire qu'au départ, ils travaillaient comme les prisonniers israéliens, ils faisaient la cuisine à l'armée israélienne, donc ça a été de refuser, donc mener des grèves à l'intérieur pour refuser de travailler pour l'occupation, et en plus de ça, d'avoir le droit d'organiser leur vie interne, donc d'avoir le droit de cuisiner leur propre nourriture, d'avoir le droit de se réunir. Sur les femmes spécifiquement, ça va être des luttes qui ont été menées pour le fait d'avoir le droit d'avoir les enfants avec eux en dessous de 2 ans. Donc celles qui ont accouché, il y a eu 3 accouchements dans les prisons, donc celles qui ont accouché, de garder leur bébé avec elles, et puis pour les autres, de faire venir les enfants à l'intérieur des prisons. Et puis ça a été le droit à une éducation, donc au départ, avant d'avoir réussi à avoir la possibilité de mener des études, de faire des diplômes, c'était aussi le fait de se réunir et de se former avec les savoirs des unes et des autres. Ça a été d'avoir des lieux physiques séparés du droit criminel israélien. Ça a été de construire des conditions internes, c'est-à-dire qu'on n'est pas des prisonniers comme les autres. Pas des prisonniers comme les autres. Un autre chose, ça a été sur le soutien financier, ça a été de... si vous voulez, de ne pas avoir une gestion, de ne pas avoir un autre prisonnier, c'est-à-dire que le prisonnier reçoit de l'argent de sa famille, mais ça a été tout de suite de mettre en place des systèmes de redistribution collective à l'intérieur des prisons, des soutiens financiers qui venaient de l'extérieur. Et ça a été de maintenir un lien, le plus ténu soit-il, avec l'extérieur. Ça a été donc d'obtenir des droits de visite avec la possibilité de pouvoir toucher, parce que les visites, elles sont faites maintenant derrière une vitre avec le téléphone, mais ça a été des longues luttes pour avoir un jour par an de pouvoir avoir une rencontre physique avec la famille. Ça a été tout ce qui est de création de cadeaux à l'intérieur des prisons pour envoyer aux familles de prisonniers. Donc, envoyer aux familles de prisonniers. Et sur la question des lettres, où c'est la Croix-Rouge, au début il y a eu une longue lutte avec la Croix-Rouge pour obliger la Croix-Rouge à faire passer les lettres, à superviser le passage des lettres entre l'intérieur des prisons et l'extérieur des prisons. Parce qu'au départ, les contacts ne se faisaient que par rapport aux avocats, donc ça a été de faire avancer un peu cette idée d'avoir le droit de garder le contact avec la famille. Premier enjeu important, ça a été séparation physique. Deuxième, d'avoir des conditions particulières d'emprisonnement. On n'est pas des prisonniers comme les autres. Et le troisième, ça a été sur les sorties de prison. C'est-à-dire, les sorties de prison, ça a été l'idée de... Sur les sorties de... Je ne vous ai pas mis la diapositive. Sur les sorties de prison, ça a été à la fois la sortie de prison, c'est l'après-prison, mais c'est aussi le moment physique de sortie de la prison. Et pour les prisonniers, ça a été, parce que c'était souvent quelque chose qui était pour l'armée, c'était de cacher en fait les sorties de prison, de faire en sorte qu'on ne sache pas que les gens sortaient de prison. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages de prisonniers qui sortaient, qui avaient déjà du mal à retrouver où est-ce qu'ils habitaient, qui étaient libérés comme ça de prison en pleine nuit. Donc c'était toute une construction à la fois avec les familles restées à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, de faire du moment de la sortie de prison un moment de fête. Au moment de l'exil physique, de la sortie physique, de résister à l'exil, parce que souvent il y avait des décisions qui étaient faites au moment de la sortie de prison. Donc on disait, ok, tu peux sortir de prison, mais tu vas être envoyé en dehors des territoires, en dehors de la Palestine. Donc il y avait construire un savoir par rapport à ça. Et petit exemple sur les prisonnières, en fait, les prisonnières femmes ont été, il y a eu des accords de libération, parce qu'il y avait eu des soldats qui avaient été kidnappés par la résistance. Il y a eu un accord de libération, les années 83. Et du coup, toutes les femmes ont été libérées. Et il y a eu, au moment de sortir physiquement des prisons, elles sont dans le bus pour sortir de la prison, elles ont eu encore des combats qui continuaient, c'est-à-dire d'avoir le droit de sortir avec ses habits de militants et pas ses habits de prisonniers, parce qu'on est des prisonniers politiques, on n'est pas des prisonniers comme les autres. Et ensuite, il y a eu un chantage qui avait été fait à ce moment-là où on leur disait, en fait, finalement, vous n'allez pas toutes sortir. Il y en a deux qui vont rester à l'intérieur, ou alors celle-là, elle va être en exil. Et donc, ça a été, OK, nous, c'est soit on sort toutes, soit on sort toutes, soit il n'y a personne qui sort. Donc, il y a eu de construire un savoir commun et collectif qui fait que ce moment de la sortie physique, comme les Israéliens savent très bien que dès qu'on voit la lumière du jour, on a très envie de sortir, il faut y faire très attention. Et c'est un espace de négociation important. Sur la question des célébrations, pour les femmes, pour les prisonnières notamment, ça a été tout un enjeu de dire il faut fêter ces sorties, et notamment pour les femmes, qu'elles soient reconnues comme résistantes par leur village, par leur famille et tout. Donc ça a été un investissement progressif qui fait que ces sorties doivent être des véritables fêtes. Et ensuite, pour l'après-prison, au départ, les Palestiniens, avant les années 80, ils sont considérés comme des handicapés. Quand ils sortent de prison, ils reçoivent un papier de la Croix-Rouge qui les désigne comme handicapés. Et du coup, ce qui va leur permettre d'avoir le droit à des formations, des trucs comme ça. Et donc, ça a été le début des années 80, une mise en place d'une association collective qui dit nous, on va prendre en charge, un train palestinien, on va prendre en charge les prisonniers, on va collecter de l'argent et on va les aider à reprendre des études et tout. C'est ce qui a donné maintenant le ministère des prisonniers en Palestine. Mais ça a été de pas laisser la Croix-Rouge seule à s'occuper des prisonniers qui sortent de prison. Dans les années 80 et jusqu'à aux accords d'Oslo, il y a deux choses qui vont structurer en fait ce que maintenant les enjeux actuels sur les prisons. ça va être dans les années 80. Il y a des mesures de nouvelles politiques de management des prisons de la part des Israéliens, c'est-à-dire qu'ils vont transférer la gestion des prisons de l'armée à des entreprises, enfin, à une gestion plus privée de ces prisons. Donc il va y avoir l'idée de faire de l'argent sur ces prisons-là. Donc ils vont transférer le coût de l'emprisonnement aux Palestiniens, c'est-à-dire qu'avant c'était la prison qui fournissait les denrées avec lesquelles ils faisaient la nourriture, c'est la prison qui fournissait les habits de prisonniers. Et là, ça va être maintenant les Palestiniens qui vont devoir payer. Enfin, du coup, c'est les familles avec l'autorité palestinienne qui envoient de l'argent à chaque prisonnier pour qu'ils puissent acheter un cantinet, quoi. Il va y avoir une cantine qui va être mettre en place. Et surtout, un truc dont on a parlé au début, c'est qu'ils vont déplacer les prisons, c'est-à-dire qu'ils vont fermer les prisons qui étaient à l'intérieur des territoires palestiniens et ouvrir des nouveaux centres qui sont complètement en dehors de ce que sont la Cisjordanie et Gaza. Et ça, du coup, ça va changer les choses, c'est-à-dire que maintenant, les familles, pour rendre visite aux prisonniers, elles ont besoin de permis, qui sont les mêmes genres de permis qu'il faut obtenir pour aller à Jérusalem. Et quand on sait que quiconque est passé par la case prison ne peut pas obtenir de permis, je veux dire, toutes les familles de prisonniers, comme en plus il y a les arrestations, quand on arrête quelqu'un, on arrête généralement ses frères ou son père, du coup, ça va priver de droits de visite un nombre énorme de proches de prisonniers, et ça va rajouter un coût dans les visites de prisonniers, c'est-à-dire qu'il faut maintenant prendre un bus de Ramallah pour aller, enfin, vous imaginez, pour aller jusque-là, alors que Ramallah c'est là, pour aller jusqu'à un bus, donc ça dure toute la journée, donc ça fait aussi des temps de visite de prison énormes. Et par exemple, un des... sur la grève des prisonniers qu'il y a eu l'an dernier, là, de les grèves de la faim de 2017, un des enjeux, c'était qu'il y ait deux visites par mois, la deuxième visite. Et il y avait un peu cette idée, on renvoyait la balle entre la Croix-Rouge et l'autorité palestinienne, mais la question, elle est que c'est en contradiction d'ailleurs avec tous les droits internationaux, que c'est Israël qui avait décidé d'éloigner les prisons et donc du coup de renforcer le coût. Et c'était l'autorité palestinienne qui disait qu'elle ne pouvait pas supporter le coût. Quand on pense qu'il y a 6 000 prisonniers, il faut compter 5-6 proches par 6 000 prisonniers, il faut le compter de nombre de personnes qu'il faut envoyer chaque mois dans les prisons. Donc l'autorité disait qu'elle ne pouvait pas supporter ce coût-là. Donc ça, c'est première des obstacles qui est important. Et la deuxième chose, c'est qu'après les accords d'Oslo, on a une institutionnalisation de la prise en charge, parce qu'on a donc l'autorité palestinienne qui se met en place. Et on a le ministère des prisonniers qui est créé. Et du coup, qui dit institutionnalisation, notamment des techniques de réhabilitation, c'est-à-dire comment on aide le prisonnier à sa sortie, qui dit institutionnalisation dit lourdeur administrative, et surtout sur la question des prisonniers politiques, c'est que du coup, on passe de militants ou de catégories politiques finalement à choisir comment est-ce qu'on soutient les gens à partir de catégories sociales, finalement, le nombre d'enfants, le statut marital, mais on n'est plus sûr est-ce qu'ils ont participé à la résistance ou pas. Et avec cette institutionnalisation-là, on a aussi l'entrée la participation des organismes internationaux. Et du coup, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que c'est à la fois la possibilité d'avoir des gens qui observent les tortures et tout juste comme ça, mais c'est en même temps devoir faire rentrer la catégorie du prisonnier politique dans des catégorisations qui sont, par exemple, la question de est-ce que les gens sont innocents ou pas, est-ce qu'ils ont vraiment fait quelque chose ou pas, alors que ça, c'était quelque chose qui ne marchait absolument pas. Et comme je l'ai précisé au début, quand on sait que vont en prison aussi des gens qui, a priori, ont simplement, par exemple... sont allés travailler dans une colonie sans permis. On n'est plus, enfin, pour les Palestiniens, il n'y a pas cette idée de je suis innocent ou pas innocent. Et du coup, ces organismes internationaux forcent à penser cette question de est-ce que les gens ils ont fait ou pas. Vous avez la preuve, oui, mais finalement, les procès ne s'accommodent pas de preuves, donc ça pose problème. Sur la deuxième partie, j'ai choisi un peu de vous parler de ce qui se passe maintenant sur toutes les manières dont les Palestiniens réussissent à résister à ce système-là, en appuyant un petit peu sur ce qu'on voit moins. Là, je vous ai mis la copie en fait du programme des visites qui sont distribués à la Croix-Rouge quand les familles de prisonniers viennent demander les permis. C'est ça qu'ils ont. Alors ça, c'était pour le mois de novembre 2017. Donc sur cette colonne-là, vous avez le nom des prisons. Sur cette colonne-là, vous avez le jour des visites qui change tous les mois. C'est-à-dire, c'est, je ne sais pas, le troisième vendredi du mois, ça change à chaque fois. Et le, ici, vous avez le jour où tu peux venir t'enregistrer, enfin, tu peux venir demander le permis pour pouvoir aller à cette visite ce jour-là. Sachant que déjà, dans les familles, il y a souvent plus d'une personne qui est en prison. Donc déjà, vous imaginez le nombre de... les visites qui ne sont pas les mêmes pour chaque prison différente. Et ça, c'est quelque chose que c'est, c'est ce papier qui dure pour un mois. C'est-à-dire que le mois d'après, ça va être un autre papier. Donc c'est l'idée aussi de ce que dire, c'est qu'on n'est vraiment pas dans un système, même si bon, voilà, on n'est pas dans un système entre guillemets carcéral ordinaire. On est quelque chose qui change du tout au tout, qui change d'un mois à un autre et qui, en fonction de la situation politique, disparaît. C'est-à-dire que dès qu'il y a un temps fort politique en Palestine, il n'y a plus de visites pour les prisonniers. C'est généralement, dans plein d'entretiens moi, que j'ai fait, les proches de prisonniers, finalement, un jour, ont découvert qu'ils avaient le droit à un permis, puis en fait, ils ne savaient pas qu'ils avaient le droit au permis. Parce que du coup, ça, c'est un papier qui s'obtient au local de la Croix-Rouge qui est à Ramallah, où il y a 5 employés qui doivent gérer 6000 prisonniers et leurs familles. Donc en fait, il y a beaucoup de prisonniers qui passent, enfin des familles qui passent à côté du droit de visite. Donc c'est l'idée, en fait, qu'on n'est pas, on n'est pas dans quelque chose qui progresse, où du coup, il y a de plus en plus de droits, où finalement, ça se stabilise. On est sur quelque chose qui est plutôt en dents de scie et sur des fronts qu'il faut constamment maintenir pour les Palestiniens. Les trois enjeux que je disais, donc je parlais au début, le fait, par exemple, d'être séparés physiquement des criminels israéliens, c'est une menace qui est constamment faite aux prisonniers quand ils sont arrêtés et interrogés, de « si tu n'avoues pas, on va te mettre avec les criminels israéliens ». Les prisonniers qui sont en détention administrative, qui sont détenus sans charge et sans procès pour une durée de 6 mois renouvelable à vie, renouvelable tout le temps, ils sont complètement en dehors des peu de droits qui ont été gagnés par les Palestiniens dans les prisons. Du coup, moi, ça, j'essaie, enfin moi, pour moi, je comprends ce système carcéral qui est plus donc, qui est quelque chose qui va bien au-delà des murs des prisons et qui n'est pas quelque chose qui s'impose comme une structure aux gens, mais qui est plus des fronts, des obstacles qui avancent et qui reculent de manière qui vont changer en fait au jour le jour. Et qui va changer parce que justement, en face de ces obstacles-là, il y a les Palestiniens qui mènent des contestations pour essayer de faire avancer ce truc-là, mais là, d'un coup, pas en arrière parce qu'il y a eu un retour de cette contrainte-là. Et cette idée-là que moi, je la construis à partir notamment d'un penseur qui s'appelle James Scott, qui a écrit un livre qui s'appelle « La domination et les arts de la résistance ». Où il dit que finalement la domination c'est ce qu'ils appellent le texte public des dominants, qui est en fait texte, ça veut dire c'est quelque chose qu'on voit et dont on peut faire un compte rendu. C'est pas seulement du texte, c'est aussi des gestes, des actions, du langage, c'est pas que du discours. Mais l'idée c'est que finalement c'est quelque chose de presque, enfin pas fragile, mais presque, c'est l'idée que ça, c'est les dominants sont constamment en train de chercher à vouloir imposer ces contraintes-là, et les dominés en retour vont constamment chercher à sortir de ces contraintes-là, et en tout cas à créer des espaces qui ne sont pas dans ces contraintes-là, et du coup la domination elle est sur ce front-là entre ce qu'il appelle dans ce texte public, donc c'est la manière dont est ordonné en fait l'espace public, ce qui est possible dans l'espace public, et qui avance tout le temps, qui essaie toujours de gagner du terrain, et en résistance, un texte caché des dominés qui essaie constamment d'ouvrir de la place physique, mais sociale, enfin physique, symbolique, pour avoir plus d'espace d'action. Et du coup, c'est quelqu'un qui dit qui considère que dans des situations de domination arbitraire, et on est dans ce cas-là avec ce qui se passe en Palestine, notamment avec le système carcéral, que finalement, les répressions sont telles que finalement, la contestation politique, elle prend souvent des formes dissimulées, elle prend des formes discrètes, parce que justement, il faut se protéger de cette répression qui va pouvoir, qui risque de se d'avoir lieu. Et du coup, c'est plus dans des formes un peu plus protégées ou alors dissimulées, donc dans les langages finalement, ou dans des modes d'action que le dominant va peut-être pas tout de suite comprendre, pas tout de suite voir, pas tout de suite comprendre, donc pas tout de suite contrôler. Et moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus sur la question des femmes et surtout de la prison, c'est-à-dire que c'est tellement violent, en fait, ce système-là, que finalement, les Palestiniens essayent tout le temps de construire, voilà, des espaces, des manières de faire, des manières de dire, qui vont essayer de se protéger de cette violence-là. Et moi, c'est dans ces manières de faire, ces manières dont on essaie de se protéger, d'avoir des espaces, de continuer à maintenir des espaces, parce que c'est des gens qui sont enfermés, qui parfois ont des condamnations à vie pour des actes dont on voilà pour des petits actes, donc c'est quelque chose de si brutal que du coup il y a toute une lutte qui est faite pour essayer de minimiser un peu cette violence qui s'exerce et dont moi j'ai pu constater que les femmes sont particulièrement actives dedans. Donc c'est ce qui m'amène à ma donc je suis dans la deuxième partie où en gros moi j'ai repéré ce que j'appelle des fronts, cinq lieux, le lieu physique, enfin temps et espace, où il y a des choses qui sont constamment en frittement en fait entre un système qui essaye d'avancer et de grignoter ce qu'il peut et en contrepartie des luttes pour essayer de l'en empêcher. Alors je vais tout de suite passer au front numéro 2, c'est plus intéressant. Sur ce que j'ai appelé le moment de l'arrestation et l'interrogation, qui sont des temps physiques qui sont marqués par une extrême violence et un caractère d'urgence. Dans ces moments-là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quand même des vidéos qui circulent, donc on a généralement la politique, c'est de venir arrêter les gens après minuit, dans leur maison directement. Et dans ces moments-là, donc il y a plusieurs exemples dans les entretiens, par exemple, de mères ou de sœurs qui vont essayer de minimiser la violence qui va se déployer en utilisant le fait qu'elles sont peut-être moins perçues comme dangereuses par les soldats et donc du coup à essayer d'être dans la négociation pour essayer d'empêcher que l'arrestation soit trop violente et puis aussi pour essayer de dissimuler des choses. Par exemple, il y avait une maman qui était toujours, elle a trois enfants en prison, ils sont tous sortis maintenant mais ils ont fait pas mal d'allers-retours en prison, qui du coup était toujours celle qui cachait sous sa abaya, sous sa robe, les téléphones portables et les ordinateurs, parce que justement les soldats n'allaient pas aller la fouiller elle. Donc il y avait ça, il y avait une sœur aussi qui, vous savez, en fait quand ils viennent arrêter la personne dans les maisons, s'ils trouvent la chambre où la personne dort toute seule dans cette chambre-là, ils vont mettre un papier jaune qui va ensuite interdire les gens d'entrer dans la chambre, dans leur propre maison. Et bien du coup, c'était comment justement les mamans ou les sœurs étaient très malines pour leur dire, quand le soldat demandait mais où est-ce qu'il dort, ah ben il dort par terre ou il dort un peu n'importe où, pour éviter en fait qu'il puisse fermer une partie de la maison. Et du coup, c'est donc elles s'appuient sur l'idée qu'elles sont peut-être un peu moins menaçantes que les autres, que les membres masculins de la famille. Et du coup, dans les familles et même pour elles, c'est quelque chose qui est le premier moment où en fait elles ont une sorte de politisation qui fait que voilà, qui montre qu'est-ce que je suis capable de faire à ce moment-là et comment on peut arriver par des moyens dissimulés à menuiser cette violence. C'est aussi les femmes souvent, alors un peu moins maintenant vu qu'ils ont éloigné les prisons, mais qui étaient capables de s'approcher physiquement, soit des lieux de détention, des lieux d'interrogation, pour obtenir les informations en criant à voix haute, voilà, si elles pouvaient avoir des nouvelles, parce que c'est des familles qui sont laissées pendant longtemps sans nouvelles de qu'est-ce qui s'est passé, il est en interrogation, est-ce qu'il est plus en interrogation, est-ce qu'il va passer en procès et tout et tout. Et du coup, c'était souvent ces femmes, les sœurs, les mères qui s'approchaient des prisons pour demander, pour hurler en demandant l'information sur tel prisonnier. Et téléphone. Et sur, il y a eu dernièrement, là, il y a eu une maman, en fait, qui, au moment où donc, il y a la menace d'arrestation sur son fils, et du coup, elle fait une intervention où elle appelle les policiers palestiniens en leur disant « Venez, venez arrêter mon fils pour le protéger », parce qu'il y a cette idée que l'autorité palestinienne peut arrêter les Palestiniens pour les protéger d'une arrestation, bon, vrai ou faux. Mais en tout cas, c'est elle qui a appelé à ce moment-là. Et du coup, il y a toute une technique en fait, qui est mise en place parce que du coup, on s'appuie sur le fait qu'on est... Voilà, on se base en fait, je suis juste une mère qui veut protéger mon enfant, je suis pas dangereuse, je suis pas machin, pour mettre en place un système un peu de mini-résistance dans des moments où il y a une violence inouïe qui se déchaîne. Sur le front numéro 3, sur l'enfermement, le maintien des liens sociaux, familiaux et politiques, il y a les femmes de prisonniers qui finalement mènent le combat mènent les campagnes de libération de leur mari. Donc on a celle qui est très connue, Fadwa Barkouti, mais pas que. C'est la prisonnière Mouna Qardat ou alors Imen Nafa qui sont mariées à des... dont un qui est en Mouna Qardat qui est marié à un prisonnier qui est en prison à vie, une peine à vie, et Imen Nafa qui est donc marié au prisonnier qui est le plus long emprisonnement, enfin un des. Et du coup, c'est comment, à partir de ce... du coup, c'est elles qui vont être interrogées par les journalistes, c'est elles qui vont construire les campagnes politiques. Et du coup, en partant de ce lien finalement en proche, elles vont réaliser une politisation individuelle et personnelle. Et dans ces campagnes de libération, donc elles prennent la parole devant les journalistes, elles vont introduire l'idée... que finalement, elles sont aussi les résistantes dans la famille. Et puis, elles vont défendre cette idée-là. Sur maintenir les liens sociaux, il y a aussi, par exemple, l'idée de pouvoir, pour les prisonniers qui sont enfermés pour des très longues peines, d'avoir des enfants quand même en prison. Et du coup, ça a soutenu et développé toute l'idée que la fécondation in vitro, qui sont souvent menées par les mères qui vont rendre visite et ensuite qui vont aider donc les épouses restées dehors à avoir des enfants, qui a du coup fait avancer l'idée que la fécondation in vitro, c'était tout à fait possible en Palestine. Un autre exemple, le moment où les familles vont faire les demandes de permis, ils sont dans une salle d'attente au truc de la Croix-Rouge, c'est les mères de prisonniers qui gèrent, c'est-à-dire qu'elles notent le moment de l'arrivée en fait, des familles de prisonniers pour garder un ordre d'arrivée qui reste, parce que les gens du coup ils viennent très tôt le matin mais ils doivent partir faire autre chose et tout. Et du coup il y a comment, en étant entraînés en fait dans cette lutte-là, il y a aussi l'idée de construire un égal traitement entre toutes les familles de prisonniers. Et il y a un autre des moments, c'est-à-dire qu'on rend très souvent visite aux familles de prisonniers dès qu'il se passe quelque chose, soit dans la prison, dans les moments des grèves, au moment de la sortie, mais aussi si on apprend qu'un prisonnier est malade ou il a fait quelque chose de particulier dans la prison, on va rendre visite aux familles. Et c'est quelque chose où que ce soit les anciennes prisonnières politiques ou les familles vont le faire. Et du coup, c'est des moments en fait, où il y a un échange entre des anciennes prisonnières politiques qui sont des militantes politiques et d'autres femmes en général, des mères, des sœurs et tout, qui ont été un peu embarquées là-dedans. Et du coup, elles les forment politiquement, elles les forment à prendre la parole. Alors pareil, c'est des choses qui sont dissimulées. C'est pas un truc où on va à une session de formation, mais il y a ça. Il y avait le jour de la libération de Ahed Tamimi, qui est bien connu. Donc il y avait un groupe de mamans de prisonnières de Jérusalem qui lui rend visite. Et du coup, il y avait donc la maman de Ahed Manal, qui est militante politique, et il y avait aussi une autre prisonnière qui était là à ce moment-là. Et du coup, il y a eu une formation entre elles pour dire aux mamans de prisonnières de filles, voilà, vous devez être fières de l'action de votre fille, voilà comment vous devez vous comporter lors des visites. Et puis, dans les prisons, il y avait un peu le débat à ce moment-là, est-ce que les filles ont le droit de danser ou pas? Oui, il faut absolument, parce que c'est le bonheur dans les prisons et tout et tout. Donc il y avait un échange comme ça, il y avait une politisation. il y avait une politisation de ces mères-là dans tous ces moments privés qu'on pourrait un peu désigner comme simplement des moments de soins, mais qui sont des moments, à mon sens, éminemment politiques. Sur le front numéro 4, le temps de la libération, bon, très rapidement, c'est des moments où il y a des démonstrations d'affection particulières, et particulièrement envers les femmes, envers les mères, envers les seules, mais voilà, des moments où il y a des contraintes de genre qui sont un peu soulevées, parce que même les prisonniers qui sont libérés dans des villages, c'est le moment où un peu tout le monde peut s'embrasser, où un peu tout le monde peut danser, et tout et tout. Donc il y a la participation assez faite de libération, pour ces femmes-là de s'inscrire comme résistance dans l'espace public. Et pour les prisonnières là en plus particulier, il y a vraiment un enjeu devant sa famille ou devant le village d'être célébrée comme une résistance politique, c'est-à-dire que voilà, les actions violentes peuvent être menées par des femmes, qu'elles ne sont pas seulement contraintes à certains rôles. Enfin, il y a tout un travail comme ça qui sont faits dans les moments de célébration. Et puis il y a un temps aussi de, comme je vous avais dit, le moment de la sortie, il est important, la sortie physique, elle est importante. Et il y a toute une expertise qui a été construite aussi par les prisonnières, que du coup, au moment de la sortie, si une prisonnière a un problème avec sa famille, veut refuser des choses ou faire un choix, et bien c'est le moment du sortie de prison où elle va appeler. Donc il y a deux prisonnières qui sont assez connues, Khalida Jalal et Mouna Qardat. Khalida Jalal, elle est de la gauche palestinienne, Mouna Qardat, elle est des djihadistes islamiques. Et du coup, ces deux-là s'associent pour aller négocier avec la famille. Voilà, bon, si typiquement, c'était des témoignages d'une fille qui voulait refuser un mariage arrangé, ben voilà, c'est ce moment-là où ces deux anciennes prisonnières qui utilisent leur légitimité politique vont aller négocier avec la famille pour faire imposer les envies de la prisonnière. Sur le front numéro 5, qui sont la pré-prison, on a les prisonnières politiques ont aussi développé cette idée que finalement, c'est pas parce que les femmes entraient en prison sans avoir d'emploi qu'elles ne devaient pas avoir de soutien financier au moment de sortie de la prison. Donc il y avait l'idée que voilà, même une femme, elle doit avoir sa propre autonomie, avoir une formation au sortir de la prison. Donc c'est elles qui sont allées négocier avec l'autorité palestinienne pour faire avancer ces questions-là. Et d'autres combats qu'elles ont menés, qui est principalement le témoignage, donc porter la parole sur les violences physiques qu'elles ont subies, les tortures, donc parler des corps qui ont été parfois violés en public. C'est aussi tout un travail qu'elles ont fait, comme je vous avais dit, elles ont un enjeu d'écrire la participation des Palestiniennes depuis le début de la résistance, donc avant 1967, et de parler de ces femmes qui sont allées en prison dès 1948. Donc elles ont tout un enjeu là-dedans. Je suis bien au niveau du temps.
Oui, il te reste un bon quart d'heure, un quart d'heure, 20 minutes.
Ok. Je reviens sur les photos que je vous avais mis. Quand je vous avais parlé en fait de ces donc ça c'était la tente qui était posée à Ramallah pendant la grève des prisonniers d'avril, la grève de la faim d'avril 2017. C'est le lieu où se retrouvent tous les jours les gens, et c'est à partir de cette tente là que débutent les manifestations. Et du coup il y a toute une tactique, en fait, des tactiques par notamment les mères de prisonniers, enfin moi que j'ai beaucoup observé, parce que j'y étais quotidiennement là-bas. Donc, c'est-à-dire que c'était elles qui, pendant la grève des prisonniers, faisaient avancer les questions les plus radicales, à la fois en termes d'action, c'est-à-dire que c'est les seules qui ont bloqué des routes, qui sont allées occuper la Muqattaa, qui est le lieu du palais présidentiel et de la tombe de Yasser Arafat, qui ont bloqué des routes, en s'appuyant sur l'idée que finalement elles ont une légitimité en tant que mères prisonnières, et puis voilà, elles veulent simplement voir leurs enfants. Et du coup aussi cette action d'utiliser en fait cette idée du proche, de je veux simplement voir leurs enfants, c'était elle qui était en fait beaucoup plus radicale, parce que justement elle faisait pas appel à des entités extérieures pour venir résoudre le problème, et elles étaient vraiment dans l'idée voilà, on veut pouvoir voir nos enfants tout de suite. Et du coup, elles ont mené des actions. Je veux dire, il y a eu des actions qui avaient lieu à 2h du matin, en plein milieu de Ramallah, où il fallait aller s'affronter avec la police palestinienne. Enfin voilà, donc des actions physiques. Et du coup, tous les petits exemples là que je vous disais, des choses qui se passent un peu de manière un peu dissimulée, un petit peu cachée, mais l'idée c'est comment à partir de tous ces petits endroits là, comment on fait avancer des luttes, on fait avancer des combats qui ne sont pas forcément pensés et dits comme tels, mais en tout cas on fait avancer, voilà, c'était des femmes villageoises et tout qui se retrouvent à 2h du matin à mener des actions contre la police en plein milieu de Ramallah. Donc du coup ça ouvrait le champ de voilà d'être dans l'espace public, de porter une parole politique un peu plus radicale. Parce qu'il y avait l'autre photo en fait, vous voyez sur les photos, c'est quelque chose en fait de tenir la photo, tu vois, il y a son fils là qu'elle tient, enfin, qui est sur la photo de droite, qui est en armes. Et du coup, il y avait toute cette idée, parce que du coup, comme je vous ai dit tout au début, il y a un peu cette idée sur le prisonnier politique, finalement, on est beaucoup à travailler sur les conditions de détention, sur le fait que, sur les droits et tout. Donc du coup, il y a besoin d'avoir cette idée de catégorie qui est innocent et qui ne l'est pas. Et c'était elle qui continuait à réaffirmer cette idée de, ben non, mais nos fils, ils sont allés en prison parce qu'ils ont fait des actions armées, et nous, et on est en soutien de ça. Donc du coup, c'était celle qui était finalement le plus efficace pendant cette grève des prisonniers. Du coup, pour essayer de recentrer un petit peu tous les petits exemples que je vous ai donnés, en quoi il me semble important, c'est que finalement, il y a un petit peu l'idée en sciences sociales, mais pas que finalement, une lutte de femmes, il faudrait qu'elle soit un petit peu menée séparément d'une lutte de libération nationale si elle veut pouvoir maintenir et ne pas être subordonnée et ne pas prendre le risque d'être absorbée par d'autres questions. Et en fait, dans tous ces exemples-là, moi, ce que je constate en tout cas, c'est que s'il peut y avoir des risques et des limites, il y a quand même largement des lignes qui... Enfin, il y a quand même des transformations assez larges de lignes qui ont été faites par cette action-là, qui est du coup, comme je vous l'ai dit, se fait dans des espaces un peu plus protégés, un peu plus privés. Quand je vous parlais des négociations avec les familles, c'est forcément quelque chose qui ne doit pas avoir lieu publiquement, pour que justement faire un peu avancer la famille sur à respecter les envies de la prisonnière qui va sortir de prison. Donc c'est tout un savoir qui a été construit comme ça. Moi, ce qui me semble, pour résumer, ce qui me semble trois choses importantes, c'est que, Grégoire le disait tout à l'heure, finalement, il y a une expérience commune de la violence qui est faite, mais comme je vous dis, elle dépasse largement les seuls prisonniers. C'est aussi largement leur famille et puis les gens concernés, enfin d'autres personnes concernées. Et du coup, ça fait, déjà, ça construit des solidarités intrafamiliales entre l'époux et sa femme, entre le père et sa fille. Ça construit des solidarités du fait que on fait face à une même expérience de la violence. Ça construit aussi des solidarités féminines. Ça construit ces solidarités entre mères de prisonniers, par exemple, ou entre mères et sœurs et proches de prisonniers quand ils vont demander les permis, comme je vous ai dit, où ils construisent l'idée de devoir tenter de se traiter équitablement entre eux. Ça construit des solidarités entre mères de prisonniers qui sont pas forcément politisées, mais qui rencontrent dans plein d'autres endroits des militantes politiques où du coup elles reçoivent. Et du coup, c'est des cas de mères de prisonniers où on les voit, elles ont commencé en étant simplement prisonniers et finalement elles finissent par se présenter comme mère de leur village. Où, du coup, c'est à partir de la légitimité qu'elles ont eue dans ces luttes menées qu'elles se sont construites un capital militant. C'est... et voilà. Quand je vous disais la question de la... C'est quelque chose qui est dans... Voilà, il y a un apprentissage du faire politique, en fait, pour ces proches-là, la capacité à circuler, à parler en public, à construire une histoire, à se référer à la résistance palestinienne. Le deuxième point, moi, ce que j'appelle un cœur martyrisé, c'est-à-dire que les prisons. Donc certes, il y a le combat central qui est le fait qu'on veut délégitimer la présence, la vie palestinienne en Palestine, mais il y a aussi une rupture radicale du soin, enfin du lien proche. Le concept de care, c'est le care, c'est en anglais, qui veut dire soin, qui a été construit par les care studies, c'est un peu l'idée, en fait, c'est un renversement philosophique de l'idée que finalement, ce qui rend la vie possible, ce ne serait pas que tous les hommes laissent libres et égaux, mais qu'on est tous potentiellement vulnérables et qu'est-ce qui est au centre de nos vies, c'est le soin qu'on s'apporte les uns aux autres. Et du coup, sur la prison, comme c'est très clairement une atteinte à ce lien, à ce soin qui pouvait exister entre les gens, et bien du coup, c'est d'autant plus pratique un appui à l'engagement politique pour les femmes, parce que justement, c'est elles qui prodiguent majoritairement ce soin-là. Et du coup, il y a une réflexion politique qui est menée sur ce care. C'est-à-dire que c'est pas seulement, c'est-à-dire qu'on va, on va souvent reprocher l'idée de oui, bah, du coup, elle renforce l'idée que les femmes ne sont là que pour être des mères. Et moi, je constate que non. C'est partir de ça pour en faire autre chose. Et c'est politiser, c'est réfléchir collectivement et politiquement sur qu'est-ce que c'est qu'être, que prodiguer du soin et être une mère. Et du coup, par exemple, pour les mères, c'est pas ce que je vois beaucoup dans les entretiens et dans les actions, c'est passer du statut de caregiver, c'est-à-dire c'est moi qui donne le care, à caregiven, c'est-à-dire que c'est à moi qu'on doit donner, dont on doit prendre soin, puisque là dans le cas, puisque je suis une mère de prisonnier, que j'ai la légitimité. Et du coup, il y a des choses qui ont été mises en place de soutien aux mères, enfin aux femmes, aux proches de prisonniers, d'aide à acheter de micro-crédit pour acheter une voiture, de micro-crédit pour refaire des études et tout, qui se sont étendues en disant que finalement, c'est pas seulement le prisonnier que concerné, mais aussi sa famille. Et l'idée générale que finalement, la maternité est quelque chose qui ne peut pas être menée seule et quelque chose qui est difficile. Et du coup, il y a beaucoup de solutions, par exemple, de garde collective en Palestine, parce qu'a été constamment répété l'idée qu'une femme ne pouvait pas faire seule face aux responsabilités, que c'était très difficile, qu'elle avait besoin de soutien. En contrario, c'est aussi discuter de la place de la paternité. Parce que du coup, il y a aussi beaucoup cette idée que, enfin, il y a ce débat public qui fait que les pères qui sont en prison pendant 20-30 ans, ben, du coup, ils sont privés de leurs enfants. Et du coup, en retour, ça donne une société où la paternité est vécue comme importante, le lien aux enfants. Et du coup, ça travaille beaucoup cette question-là sur les liens affectifs et les démonstrations en public. Je disais en rigolant, il y a beaucoup d'entretiens que je faisais où les gens ils parlaient en disant « Les Palestiniens, nous sommes un peuple romantique ». Parce que du coup, avec toutes ces idées de voilà, « il faut continuer à se marier, on reste
tu
ensemble »,
tu peux juste traduire
on est un peuple romantique. Nous, les Palestiniens, on est un peuple romantique. Alors, je ne suis pas en train de dessiner un truc rose et complètement parfait, mais en tout cas, il y avait cette idée que ben oui, il fallait maintenir de l'amour là-dedans, il fallait maintenir des relations, enfin, des histoires. Et ça, comme c'est à travers la question des prisonniers et la question donc, qui est une question légitime, ben, du coup, ça passe, c'est dans l'espace public, y a pas de souci, c'est quelque chose que les gens apprécient, donc du coup, ça fait travailler ça. Et sur les prisonnières politiques, plus en particulier, c'est par exemple, elles ont donc du coup à travers ces luttes-là, ont mené un combat très fort sur la question du corps. C'est des femmes qui ont, une, Aïcha Oud, qui a assumé en public le fait d'avoir été violée avec un bout de bois dans les prisons. Donc c'est du coup, voilà, quelque chose qui peut être tabou, le corps ou la nudité ou des choses comme ça. Et bien là, au contraire, elles ont renversé le stigmate en disant, voilà, elles ont bénéficié, on a tendance à dire que ça vaut pour les hommes qui ont du coup renversé le stigmate de la torture, mais ça vaut aussi pour les femmes, elles ont aussi renversé ce stigmate, c'est pas parfait, mais il y a quand même largement ça, de renverser ce stigmate-là, de faire des corps finalement qui étaient forts, qui c'était pas la honte d'avoir été torturée, mais au contraire c'était la résistance. Et puis, il y a à mon sens... quelque chose il y a un militantisme en fait qui a été créé à part ces idées, donc je parlais du care, donc comment on milite à partir de ces catégories là il y a par exemple en Palestine, le journée de la fête des mères, c'est pas une journée plan-plan. C'est une journée où il y a plein de conférences pour les femmes sur les luttes des femmes en Palestine, sur... Et je pense que les militantes là-bas, enfin, il y a eu quelque chose qui est de par la rencontre qu'elles ont eue, c'est-à-dire que, par exemple, les prisonnières politiques expliquent beaucoup que c'est la qu'en prison, et avec les visites qu'elles avaient tous les mois, elles ont rencontré leur mère à ce moment-là, ou elles ont pu mieux comprendre leur mère à ce moment-là dans le lien qui s'était créé. Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est créé pour ces militantes politiques-là, de dire, voilà, on part de ces choses-là pour essayer de faire avancer des questions de lutte de femmes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est devenu, à mon sens, une stratégie politique. Et puis, c'est aussi d'avoir assumé des carrières atypiques, c'est-à-dire que, voilà, des femmes qui ont divorcé à la sortie de prison, mais pas que des divorces subis, loin de là. Ça a été, dans le cas d'Aïcha Aoudé, elle explique, voilà, elle a été violée avec un bout de bois pendant son incarcération. Elle ne pouvait plus vivre une vie maritale normale, donc elle a demandé le divorce. Donc du coup, c'est des choses-là qui, à partir de la prison, elles ont, et de la légitimité des luttes contre la prison, elles ont fait avancer ces idées-là, et les questions, par exemple, des refus de mariage dont je vous parlais, au moment de la sortie, comment voilà, on essaye d'aider les prisonnières à faire respecter leur choix. Je vais conclure. Comme je vous disais, il y a un peu cette idée en sciences sociales, mais pas que du coup, voilà, une lutte des femmes, il faut qu'elle soit, elle prend le risque d'être subordonnée quand elle fait partie d'une lutte de libération nationale. Et en fait, moi, je pense qu'il y a, notamment, en Palestine, de manière très très large, il y a au contraire des tactiques et des stratégies. Alors, quand je parle stratégie, je ne parle pas du tout de trucs un peu manipulatoires, mais de véritables stratégies politiques, en même temps de tactiques. C'est-à-dire que je constate que pour des militantes politiques, c'est quelque chose qui est pensé, voilà, qui est mis en œuvre. Par exemple, les prisonnières politiques ont monté une association qui est non mixte de soutien aux femmes. Et moi, dans tout le début de mon enquête, je me confrontais à l'idée en disant, bon, bah, vous avez fait une association non mixte, ok, bon, bah, du coup, féminisme, machin. Vous ne comprenez pas mes questions, ça ne prenait pas du tout. Jusqu'à ce que donc Aïcha Aoudé, qui est une prisonnière très connue, me disait « Mais notre société, elle est divisée comme ça, les femmes d'un côté et de l'autre. » Donc du coup, c'est comment elle partait de ce qui existait déjà, mais pour en faire une autre chose, c'est-à-dire que dans cette association-là, elles aident les femmes à à monter des projets autonomes. Elles aident aussi celles qui ont des problèmes, par exemple, dans leur famille, et puis elles écrivent l'histoire palestinienne. Mais du coup, c'était comment... dans des espaces publics dangereux, dans les espaces publics ou dans des moments qui sont... Moi, je pense que ce truc de martyriser, ces idées de martyriser, et bien du coup, on fait quelque chose qui est plus dissimulé pour avoir une efficacité plus grande. Donc ça, c'est des stratégies qui sont construites comme des stratégies politiques et des tactiques aussi. Moi, je pense que pour des tactiques, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est moins pensé, mais pour notamment la question des mères de prisonniers, c'est partir d'un truc qui vous tombe dessus et en disant « Ouais, mais avec ça et ça, du coup, il y a ça qui bouge, il y a ça que je peux faire. » Et donc, du coup, ça rejoint aussi, c'est de dire de ne pas se laisser enfermer par la prison.